Bonjour chers auditeurs, Catherine Mann au micro pour L'Esprit du Livre, une émission qui vous présente chaque mois quelques livres de parution récentes ou plus ou moins récentes et qui concernent directement et indirectement la foi chrétienne. Et voici tout d'abord le père Roger Willem qui vous présente un premier ouvrage.
Oui, c'est l'esprit du livre, mais j'ai un plaisir, je dis bien plaisir, particulier à présenter ce livre de Lita Basset. Le titre, c'est « La source que je cherche », paru chez Albin Michel au mois de mars 2017. Lita Basset est une femme merveilleuse, une femme pasteur, elle est protestante. Elle a vécu un drame terrible. Elle avait un fils unique qu'elle aimait particulièrement. Elle le choyait. Ils s'entendaient bien, comme deux amoureux. Et voilà qu'un jour, ce fils unique ne revient pas à la maison. C'est étonnant. Lui est si fidèle. Les heures passent. On arrive à minuit, 1h du matin. Il n'est toujours pas rentré. Alors, Lita Basset prend sa bicyclette et va dans la forêt de Fontainebleau. Et à un moment donné, que voit-elle? Pendu à un arbre, un magnifique chêne, son fils, qui tenait en main un billet. « Maman, je sais que je te fais de la peine. Je sais que tu vas souffrir. Pardonne-moi. Je l'ai fait parce que je suis inutile en ce monde. Ça ne sert à rien que je continue à vivre. Il y a d'autres qui vont faire mieux que moi. Alors tu les aideras. Tu pourras faire beaucoup de choses pour eux. D'avance, je te remercie, maman, de tout ce que tu feras pour les autres. Il arrive que l'on soit témoin du monde de l'invisible. Mais quelle que soit l'intensité de cette expérience, pourquoi essaierait-on une enquête? Enfin, c'est ce qui interroge Lita Basset. On serait alors tenté d'invalider le témoignage d'autrui. Ne s'estripe-t-on pas encore et toujours entre témoins qui, persuadés d'avoir trouvé Dieu, ne le cherchent plus? En revanche, on s'enrichit d'autant plus des expériences spirituelles des autres qu'on demeure profondément des chercheurs. Voilà une citation de Lita Basset qui m'a nourri profondément. Personnellement, j'ai beau avoir plusieurs fois vécu des rencontres lumineuses avec lui, avec ce Dieu, mon pain quotidien reste la quête, impossible de thésauriser. Pour Lita Basset, il importe davantage d'être crédible pour autrui par son comportement que croyant déclaré. La vie nous offre bien des manières de nourrir notre désir de la source, pour autant que nous acceptions d'endurer le vide que nos cœurs en nous vivent parfois. Mais nos cœurs peuvent vivre autre chose. Ils vivent cette présence des autres et de l'autre. Voilà. Lisez ce livre. Il vous demandera du temps, pour une fois. Vous aurez du temps. Comme on le dit si volontiers à Chartres, dans les terrasses de café ou dans les bus, dans les lieux publics, prenez votre temps. Prenez votre temps. Alors prenez votre temps pour lire la source que je cherche et vous verrez, vous aurez soif de vérité et d'amour.
Je vous présente maintenant un livre qui vient de paraître, donc en mai 2017, aux éditions Grasset, dont le titre est « Brève apologie pour un moment catholique » de l'immense philosophe Jean-Luc Marion. Je ne crois pas qu'il soit vraiment nécessaire de le présenter, mais pour la forme, je rappelle simplement que Jean-Luc Marion, donc phénoménologue et métaphysicien, a été le successeur d'Emmanuel Lévinas à la chaire de métaphysique de Paris 4 Sorbonne, et puis qu'il a ensuite succédé à Paul Ricoeur à l'université de Chicago, où il enseigne toujours. C'est peut-être pour ça qu'on entendait moins parler ces années-ci, parce qu'il est à Chicago. Mais depuis 2010, il est devenu de nouveau plus français, parce qu'il est entré à l'Académie française, où il occupe à présent le fauteuil du cardinal Lustiger. La particularité de ce grand penseur est en effet qu'il est catholique et visiblement très heureux de l'être, puisqu'il nous offre ici un essai où il développe ce que, selon lui, les catholiques pourraient apporter à la société française dans les années à venir. Il est visiblement agacé par la mauvaise réputation que l'on fait aux catholiques, dû à des peurs absurdes, à la méfiance, mais surtout à une immense méconnaissance et aux affabulations des médias. Je cite ses paroles. Les arguments que Jean-Luc Marion avance sont tout à la fois philosophiques et théologiques, parce qu'il est assez théologien, et aussi teintés d'une pointe de sociologie. Ce qui fait que ce livre, bien qu'il soit mince, hein, il a à peine 125 pages, il est néanmoins extrêmement complet et très dense. La première partie est destinée à expliquer ce qu'est réellement être chrétien. Et il s'adresse donc à des détracteurs mal informés. J'ignore si ces paroles auront un effet positif sur eux. En tout cas, sur moi, elles en ont eu. J'ai été très impressionnée par ce qui est vraiment une confession de foi de ce grand intellectuel catholique qui arrive à dire l'essentiel en quelques phrases, à la fois précises et simples. On est très loin des chrétiens soi-disant ringards et un peu niais, parce que quelle profondeur, quel regard, quelle largeur de vue, et en plus, une langue magnifique, il n'est pas à l'Académie française pour rien bien sûr, mais une langue incisive aussi pour dire la spécificité chrétienne et la vie qui veut se conformer à l'enseignement du Christ. Mais son analyse ne se borne pas à expliquer le christianisme en France, il le situe aussi dans la société contemporaine, pour laquelle, là, cette fois, il a des mots parfois très durs. Je les cite. « Décadence, nihilisme, volonté de puissance aveugle et inutile, atmosphère qui nous empoisonne, etc. » J'en passe. Donc, cette vision du monde moderne a déjà valu à ce livre une publicité assez négative. Des réactions de lecteurs choqués montrent peut-être que Jean-Luc Marion est allé un peu loin dans son analyse du monde. Pourtant, même si sa façon de le décrire est un peu excessive, elle a le mérite de tirer, à mon sens, un signal d'alarme très convaincant. Le deuxième chapitre qu'il consacre donc à la laïcité à la française est également très mordant et écrit d'une plume ironique. Il montre à quel point le sens du mot « laïcité » est totalement confus et que des abus de déformation et d'imprécision ne servent finalement pas les intérêts réels qui seraient d'être vivre ensemble sereinement. Il rappelle qu'il vaudrait mieux parler de séparation du religieux et de l'État et que cette volonté de distinction trouve en fait son origine dans la Bible. Donc on ne peut pas opposer laïcité et chrétien. Et il dit aussi que, je cite, invoquer en incantation le concept de laïcité pour l'ériger en machine de guerre contre une vision chrétienne de la société, non seulement relève de l'imposture, mais surtout révèle une incohérence irrecevable. Donc ça, c'était pour la laïcité. Et enfin, un troisième chapitre développe pourquoi et comment le christianisme peut ou pourrait apporter sa contribution à la société française. Et il ajoute bien sûr qu'il faut que les catholiques acceptent ce défi, non comme un privilège, mais comme une charge, une lourde tâche qui consistera à dépasser tous les conflits de type communautariste pour élever la société à l'universel. Et c'est le sens du mot catholique, comme il nous le rappelle. Alors comment ? D'abord, dit-il, en donnant des conseils, bien sûr, mais aussi en montrant l'exemple. Et c'est là que le bât blesse, parce que c'est pas très évident, parce que le portrait que fait Jean-Luc Marion du catholique moyen est malheureusement très exigeant. Et c'est déjà tout un travail que d'arriver à correspondre à ce modèle parfait du chrétien qu'il dépeint. Mais c'est peut-être justement la bonne raison de lire ce livre, qui devient alors pour chaque catholique une provocation à se montrer à la hauteur d'un destin de témoin efficace du Christ pour notre monde. Et Jean-Luc Marion va plus loin, il dit que c'est peut-être la seule solution pour arriver à sortir vraiment notre vieux monde un peu décadent de tous ses problèmes. Donc le projet de Jean-Luc Marion est terriblement ambitieux pour les catholiques. Il nous invite, je pense sérieusement, à nous secouer. Je vous rappelle le titre de son livre, « Brève apologie pour un moment catholique », paru chez Grasset au début du mois de mai 2017.
Voici un deuxième livre que je vous présente. Il s'agit d'un homme qui a profondément marqué ma vie et dont le titre du livre pourrait exprimer mon petit noyau de foi. « Je ne crois pas en Dieu, je le vis ». Voilà le titre de cet ouvrage que j'ai le grand plaisir de vous présenter. Maurice Zindel, qui a vécu de 1893 à 1976. C'est un prêtre suisse qui mit toute sa vie au service de la rencontre de Dieu en l'homme. Le pape Paul VI le décrivit comme un génie de poète, génie mystique, écrivain, théologien. Et l'abbé Pierre disait de lui, par sa personne même, on accédait presque naturellement au mystère de Dieu, à l'absolu. Alors ce livre, publié aux éditions Le Passeur, en juin 2017, porte le titre merveilleux « Je ne crois pas en Dieu, je le vis ». Ce sont des textes choisis et présentés par France-Marie Chonlo. Maurice Sindel, c'est l'homme d'une rencontre avec le Dieu vivant. Elle a embrasé son cœur, animé son esprit. Et de ce fait, toutes les visions fondamentales de son ministère de prêtre, de prédicateur, tous ses écrits se trouvent présents dès le début. Cette passion de Dieu, cette passion de l'homme, et ses pensées seront orchestrées et enrichies de multiples façons au cours de sa vie, selon les événements et les découvertes. Voici quelques passages. Se mettre à l'école des enfants. Rien n'est plus grand que d'être créateur de la vie, mais cette grandeur tient tout entière à une fidélité de tous les instants aux exigences qui sont inscrites dans le rêve de tout enfant. Je voudrais que nous entendions la voix de tous les enfants du monde qui nous demandent ce que nous faisons, ce que nous avons fait de notre pouvoir créateur. Ah, si les parents pouvaient se mettre à l'école de leurs enfants, si nous pouvions chercher dans les yeux d'un petit enfant l'exigence de la perfection, si cet évangile qu'est l'enfant, oui, l'enfant est un évangile, c'est-à-dire qu'il est une bonne nouvelle parce qu'il est. Alors, si nous sentions vraiment les créateurs de l'homme, comme le monde serait transfiguré. Car ce qu'il y a de plus précieux au monde, en raison de tout ce qui se vit, oui, ce qu'il y a de plus précieux au monde, en raison de toutes les possibilités qu'il contienne, ce sont justement ces petits-enfants sans lesquels la vie humaine ne serait qu'un cimetière. Alors, lisez ce livre et vous verrez que la grandeur de l'homme est une grandeur de pauvreté. Bonne lecture. Thank you.
Voici un deuxième livre, lui aussi paru assez récemment. Il s'agit d'un livre un peu étonnant, qui peut-être pourrait aider ceux qui en auraient besoin à croire à l'au-delà et à une vie après la mort. C'est un livre à caractère scientifique. Il est écrit par un médecin anesthésiste réanimateur, le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Celui-ci s'est spécialisé depuis plus de 20 ans dans la recherche sur les expériences dites de mort provisoire, c'est-à-dire d'authentiques morts cliniques certifiées, mais que l'on a réussi à ranimer. Et il s'intéresse aussi aux états de conscience différents qui sont liés à ces expériences de mort provisoire. Et donc le docteur Charbonnier a déjà fait paraître de très nombreux ouvrages sur ce sujet, comme par exemple en 2008 « La preuve scientifique d'une vie après la vie » ou en 2010 il a fait paraître « La médecine face à l'au-delà ». Le titre de ce nouveau livre est cette fois donc « La conscience intuitive extra-neuronale ». Alors ne vous laissez pas effrayer par ce titre, une fois qu'on a compris c'était assez clair. Le sous-titre est « Un concept révolutionnaire sur l'après-vie, enfin reconnu par la médecine », donc paru aux éditions Guy Trédaniel en janvier 2017. Ce livre apporte quelque chose de nouveau par rapport au précédent, justement parce qu'il raconte comment la médecine française a reconnu, dans un document officiel d'État, en décembre 2014, l'existence d'une conscience totalement indépendante de la matière et qui agit sur le cerveau, donne l'image comme la même manière qu'un nuage électronique agit sur un ordinateur, le cloud. Il s'agit donc d'une forme de conscience différente de la conscience ordinaire neuronale, donc qui se communique par les neurones, et malheureusement, les expériences ont montré que la conscience ordinaire est généralement beaucoup trop encombrée et trop bavarde pour pouvoir s'ouvrir à cette conscience supérieure, à laquelle on a donné donc le nom de conscience intuitive extra-neuronale. C'est pourquoi il faut, dit-il, habituellement que le cerveau connaisse une mort clinique, c'est-à-dire un électroencéphalogramme plat, hein, pour que la conscience intuitive puisse enfin se manifester. Ce livre est basé sur l'examen systématique de centaines de patients décédés d'arrêt cardiaque, mais que l'on a pu réanimer. Et plus de 15% des patients réanimés ont gardé des souvenirs très précis de cette expérience dite de mort provisoire, et on a pu prouver qu'il ne pouvait en aucun cas s'agir d'hallucinations. Alors, moi, ma question, c'est est-il vraiment nécessaire de mourir pour faire cette expérience de la conscience intuitive extra-neuronale ? Car le docteur Charbonnier ose quand même appeler cette conscience l'esprit. Et nous pouvons alors comprendre que, par exemple, beaucoup de saints étaient capables de se relier à ce plan de conscience et aussi qu'ils pouvaient développer ainsi des perceptions extrasensorielles, comme celle qu'on connaît le plus, c'est celle par exemple du saint curé d'Ars ou de Padre Pio, qui lisait dans les âmes de leurs confessés comme dans un livre ouvert. Mais les gens ordinaires ont aussi parfois l'occasion de faire cette expérience. Par exemple, dit-il, la nuit, entre deux phases de rêve, d'où ce qu'on appelle généralement les songes prémonitoires, ou des communications de type transmission de pensée, ou la médiumnité. En fait, tout le monde serait capable de ces états de conscience différents, à condition de pouvoir mettre l'activité cérébrale ordinaire au repos, volontairement comme ceux qui prient ou qui méditent en silence, ou involontairement comme souvent les enfants, dit-il, parce que les enfants n'ont pas encore tout l'encombrement mental des adultes. C'est pourquoi très certainement les apparitions comme à Fatima ou à Lourdes ont pu exister parce que des enfants au cerveau disponible et sans préjugés furent capables d'accueillir des révélations d'un ordre inhabituel. Bref, si vous cherchez des arguments scientifiques pour étayer la foi en l'au-delà et pour prouver la survie de l'esprit après la mort, vous trouverez tout ce qu'il faut dans ce livre qui, autant que je puisse en juger, est extrêmement rigoureux et sérieux. Mais en le lisant, on éprouve aussi qu'il est important de préserver dans nos vies aujourd'hui du temps pour le silence et la contemplation, parce que c'est le moyen d'accueillir les informations de l'esprit et d'ouvrir notre vie ordinaire à sa vraie dimension spirituelle. Et l'auteur pense même dans sa conclusion que si on était nombreux à vivre comme ça et à se relier à la conscience intuitive extraneuronale, on pourrait changer le monde. Donc voici encore un livre à la fois étonnant, scientifique et réconfortant. Je vous en rappelle le titre, « La conscience intuitive extraneuronale, un concept révolutionnaire sur l'après-vie, enfin reconnu par la médecine » du docteur Jean-Jacques Charbonnier, paru aux éditions Guy Trédaniel en janvier 2017. Et je vous dis à présent au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt.